Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publi.net, collection Temps Réel. Comme à chaque fois qu'il parcourt le paysage, Théo déteste boucler son bagage. Partir en voyage, c'est beau, mais composer le trousseau qui doit l'accompagner, ça le déprime. Il ne sait pas pourquoi, il ne cherche pas à comprendre. Quand il part en vacances avec Édouard, celui-ci sait que les préparatifs sont un mauvais moment à passer pendant lequel Théo sera grognon, alors il lui adresse la parole au minimum. Il évite même d'être prévenant pour ne pas risquer de l'irriter. Il se charge de l'essentiel du travail, les affaires qu'ils utiliseront en commun, afin de laisser pour seule mission à Théo de compter ses slips, ses chaussettes, ses t-shirts. Quand il a annoncé à Édouard son intention de se rendre au village, Édouard a pensé « enfin » et proposé à Théo de lui prêter son sac à dos. « Tu sais, il est pratique. Je te préparerai des trucs pour grignoter dans le train. » Théo a les petits soins d'Édouard qui ne laisserait pas son amoureux quitter la maison sans un casse-croûte, sans ses lunettes de soleil. « Tu devrais prendre ton maillot de bain. Il fait beau ici, il fera sûrement aussi beau là-bas. » Théo a pris un gros livre, parce que le trajet allait être long. Mais il n'en a lu que 20-30 pages. Il a préféré faire comme à chaque fois qu'il parcourt le paysage en train, l'observer par la fenêtre. Il a pris le train à Montparnasse, il a changé à Morlaix et, depuis Saint-Paul-de-Léon, il a marché sur le parcours de l'ancienne voie ferrée. Et voilà, il arrive au village. Il ne reconnaît pas le centre lorsqu'il l'atteint, c'est-à-dire l'endroit où cette promenade, devenue la rue de la gare, coupe la rue de Pratkoulm. Alors il le dépasse. Il continue de marcher, il sort du village. Il atteint le viaduc. Le Guilec est un fleuve. Les promenades en bord de mer sont troublantes pour les gens comme Théo qui ont appris à l'école que les 5 fleuves de France étaient la Loire, la Seine, le Rhône, le Rhin et la Garonne. En réalité, il existe des tas d'autres fleuves. À chaque fois qu'un cours d'eau, mince ou gros, vif ou paresseux, rejoint la mer ou l'océan, il est aussi fleuve que ces 5-là. Le Guilec prend sa source dans un autre village, un tout petit peu plus au sud, avant de traverser le village. Il parcourt 25 km avant de gagner la Manche. C'est là, dans le dernier tronçon, qu'il s'élargit d'un coup et qu'il creuse profondément la roche, au point de former un ravin, une gorge, une faille, dont les contours déchiquetés restent invisibles. Ils sont dissimulés par la densité des arbustes persistants, mais on les devine parce qu'on connaît l'âpreté des pierres sous ces latitudes. Ce grand écart serait impossible à franchir à pied, encore plus impossible en train. Le viaduc a été construit pour cette raison précise. Le Guilec sourd un peu plus loin sur la lande, je l'ai dit. À peu de distance naît un autre fleuve qu'on appelle l'Orne. Les deux lignes serpentent entre les hameaux, se laissent grossir par de minuscules affluents, puis, comme par hasard, leur tracé s'approche. On croit presque qu'ils vont se mêler. L'un et l'autre coulent à 100 mètres de distance, quand soudain, une aspérité du paysage, une butte de presque rien baptisée Kergaouren les sépare. Le Guilec vire à l'ouest, l'Orne retrouve son axe, côté est. L'Orne qui, à la toute fin de son périple, tourne brusquement à gauche devant la forêt de Santec. Il se jette dans la mer, en léchant la plage de Carbrat. L'espace délimité par les deux fleuves est très exactement celui du village. Théo a étudié les lieux avant de venir. Il sait que cette configuration hydrologique n'est pas banale et que la forme du village, à cause de celle des deux fleuves, ne l'est pas non plus. Ses contours sont ceux d'un cœur, nettement dessinés sur la surface en deux dimensions de la carte géographique. Non pas le cœur stéréotypé des jeux de cartes, je parle à présent des cartes de Rami ou de la bataille, plutôt que de celles de l'Atlas, mais du muscle qui palpite entre nos côtes. À la pointe nord du village, l'éperon rocheux de Penandour s'avance vers la mer. Il occupe grosso modo l'emplacement du tronc artériel brachiocéphalique, chargé d'irriguer en sang neuf la tête et les bras. Dans cette position, le récif longé par les dernières eaux du Guilec, à notre main gauche, joue le rôle de l'artère subclavière. Celui du côté droit, caressé par l'Orne finissant et dirigé vers l'île de Sieck, prend des airs d'artère carotide. Théo a appris ces mots anatomiques, il y a quelques jours seulement. Il s'est renseigné juste avant de venir. Il ne connaît ces choses que grâce a des biais intellectuels. Il ne les éprouve pas physiquement. Il ressent très fort, par contre, les coups tapés dans sa poitrine, quel que soit le nom donné à ces parties vigoureuses de son muscle cardiaque. Heureusement, il n'est pas nécessaire de nommer chaque chose. Théo est assis sur le parapet du pont, les jambes ballantes, face à l'embouchure du Guilec. Il place ses doigts sur son sternum, dans l'enfoncement de ses côtes. Ça résonne. La vallée du Guilec est presque vertigineuse, mais Théo n'est pas sujet au vertige. Il s'adonne seulement à l'association d'idées et la hauteur à laquelle il est juché au-dessus du ruisseau, pardon, du fleuve, accordant-lui son titre une bonne fois pour toutes. Cette hauteur lui rappelle un autre paysage et d'autres frissons. Le décor était moins escarpé et même, franchement, plus paisible. Un trou d'eau dans la roche. La mélodie d'un filet descendant des hauteurs. Mais Théo, posé sur une pierre au milieu de tout ça, vivait un moment douloureux. Il existe bien un rapport entre ces deux paysages. Ce n'est pas pour rien qu'il les associe en souvenir. L'épisode était pénible pour Théo, disais-je, parce que les gens autour de lui s'amusaient, les enfants et les adultes. Lui était entre deux, du point de vue de l'âge. Il était obnubilé par les souvenirs de piscine, alors que la situation présente n'avait rien à voir. La trempette dans l'eau vive, l'été, est supposée faire plaisir, alors que la piscine était un rituel épouvantable, une épreuve infligée aux collégiens qui avaient déjà assez de malheur sans ça. Les gens normaux aiment jouer dehors, courir derrière un ballon, sauter à droite et à gauche, alors forcément ils ont un corps bien formé, avec la peau tendue sur des muscles élastiques. Celui de Théo n'était pas de ce genre-là, à cause du temps passé vautré sur son lit à ne rien faire. Il était mou. À la piscine, tant qu'il était dans l'eau, à la rigueur, ça se passait bien. Il était nul à la nage, mais on ne le voyait pas. Il n'y avait que sa tête qui dépassait, et encore, elle était masquée à moitié par un bonnet. Tandis qu'assis sur le bord, quelle angoisse, une exposition. À cause du creux qu'il avait dans la cage thoracique, les parties situées de chaque côté du sternum, pourtant modérément charnues, avaient l'air de saillir. La chose était affreuse. Et le ventre, eh ben, la position assise le pliait mochement en formant des boudins. Il fallait que Théo gardât sa serviette sur lui pour camoufler cela du mieux possible. Mais il ne pouvait pas la remonter assez haut pour dissimuler ses seins. Ça aurait été plus ridicule encore que de les montrer. Les autres gens de sa classe, disons plutôt les autres garçons car Théo n'a aucun souvenir des filles, avaient au mieux ces corps d'enfants énergiques qui rendaient Théo jaloux, et au pire déjà des corps de jeunes hommes vigoureux qui le faisaient brûler d'une autre douleur. Voilà. Il y avait une autre bonne raison de maintenir sa serviette sur son ventre. Dans cet endroit abominable, où tout le monde était nu ou quasi, on n'était pas à l'abri d'émotions dont personne, jamais, ne devait avoir connaissance, sous peine de faire mourir de honte la pauvre victime. Ces irruptions n'arrivaient heureusement pas, mais Théo les redoutait. Il fallait les cacher par avance au cas où. Bâti comme il l'était, il ne pouvait pas se permettre de manifester du désir. Ça aurait été indécent. Les années ont passé, enfin. Les muscles ne sont pas devenus plus épais sur les côtes, mais ils sont mieux dessinés. Ils ont trouvé leur place. Aujourd'hui, la peau est correctement tendue. Il n'y a pas à rougir des plis qui la marquent. Et puis, encore un peu plus tard, des poils ont poussé, habillant élégamment cette nudité gênante. Ce n'était donc qu'un mauvais moment à passer, comme on le dit souvent à la légère. Un mauvais moment, oui. Mais lourd. Tellement lourd. Il est haut, ce viaduc. Il a de la gueule. Théo est assis sur le parapet, face à la mer. Ses talons battent la pierre en rythme. Il observe les passerelles jetées entre ses idées. Il boulotte en pensée ses madeleines à souvenir. D'ailleurs, il a un petit creux. Il vient de sentir gargouiller son estomac. Hop, il descend du muret. Il rebrouche chemin parce qu'il a compris que le centre du village était situé un peu plus tôt, qu'il l'a dépassé sans le vouloir. Il se rappelle la carte topographique étudiée avant de partir. Le cœur du village est à mi-chemin des deux fleuves, au point où se touchent les deux ventricules vus du ciel. Ah, voilà le point commun entre tout ça. ce muscle dans la poitrine qui tape contre les côtes qui l'enserrent. Les images ne se sont pas succédées dans sa tête sans raison. Il est question d'émotions et de rien d'autre. Peu de choses sont aussi propices à faire affleurer les émotions, puis à activer des connexions entre elles, que la contemplation de la mer et les voyages en chemin de fer. Il retrouve l'ancienne voie ferrée suivie tout à l'heure. Un train ne ferait pas demi-tour aussi facilement qu'un homme à pied. Les trains sont puissants, chargés de rêves et de poésie, mais ils ne sont pas très maniables. Alors que 3 minutes de marche suffisent à Théo pour atteindre le carrefour, le nœud de communication, le point névralgique. Il pourrait prendre vers le sud, la rue de Pratkulm, desservant l'église et le cimetière, qui devient ensuite la rue de la mairie. Le centre du bourg proprement dit. Là, quelques pas de porte ressemblent à des commerces et tous ne sont pas fermés. Il pourrait espérer un bistrot ou une épicerie. Son ventre a gargouillé tout à l'heure et la situation n'ira pas en s'arrangeant. Mais il patiente, car au nord, c'est la rue de la mer. Il y a des mots magiques. Va pour le nord. Sur la plage, une maison. Sa façade est un carré parfait, divisé horizontalement en 3 tranches. Tous les ouvrants du rez-de-chaussée, une large fenêtre, la porte, 3 fenêtres étroites, sont arrondis sur le dessus et surmontés d'un arc de cercle en pierre foncée, une sorte de sourcil. La tranche médiane du bâtiment est percée de 4 fenêtres carrées à 2 battants. L'espacement entre chacune est irrégulier. En haut, c'est-à-dire au second étage, les chiens assis respectent l'alignement bizarre du premier. Ils sont placés précisément au-dessus des fenêtres carrées. 4 niches claires sur le toit d'ardoise. Chacune surmontée d'un chapeau triangulaire excédant un peu la ligne du toit. La cheminée parachève le côté droit de la façade. Aussi, la forme générale de la maison est certes un carré, mais pas si parfait que cela. Un carré avec 4 trucs pointus et 1 truc plat qui dépasse. Derrière, un jardin, clos par un muret, et devant, la plage. Cette maison, Théo la connaît, alors il la reconnaît tout de suite. L'image apparaît dans sa tête immédiatement. La photo de son père à 20 ans. À peine sorti de l'enfance. Le jeune homme, qui n'est pas encore le père de Théo, pose, seul. Il regarde l'objectif de l'appareil qui le regarde en retour, et lui regarde par anticipation tous les yeux qui se poseront sur la photo bien après qu'il aura quitté cette plage, qu'il aura vieilli un peu, qu'il sera mort. Théo fait quelques pas à reculons jusqu'à reproduire le cadrage dans son œil, la façade à l'arrière-plan. Aucun doute. Ses baskets s'emplissent de sable, c'est agréable. Il se baisse pour voir. Ses genoux craquent. Non. L'image n'a pas été prise en contre-plongée, mais à hauteur d'homme. Et puisqu'il n'y a nulle part où poser le boîtier pour faire fonctionner le retardateur, il a fallu un doigt humain pour déclencher l'appareil. Quelqu'un a donc pris cette photo. C'était « Marin absent », lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publinet, collection Temps Réel. Marin Absent est disponible en podcast sur le site de Radio Campus, à la page du Marin Absent. Production La Compagnie Ensemble, sous la direction artistique de Coralie Tommy. Réalisation Élodie Hervier. Enregistrement Radio Campus Paris. Suite du feuilleton, demain, même lieu, même heure. La Compagnie Ensemble sera présente au Festival d'Avignon, du 2 au 7 juillet, à 18h40, dans la cour du Théâtre du Roi René. Elle présentera la pièce de conte Cosmogonie du Monde, tout public, à partir de 6 ans.